tu embrasseras très fort Ludivine, qui est une de mes quasi-sœurs. Tu embrasseras très fort je sais plus qui. Fais attention aux chiens et aux perroquets.
Et rien sur toi.
Et rien sur moi, rien sur mon frère. Enfin, c'est. En fait, c'est comme si on n'avait jamais existé, quoi.
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Mia.
Bonjour Sarah.
Alors, est-ce que tu peux me dire quel âge tu as? À peu près, hein, on n'est pas, c'est pas la police. Et quelle est ta situation de famille? Quelle est ta vie?
Actuellement, j'ai donc 36 ans, tout récemment. Je suis mariée et j'ai deux enfants, deux petits garçons, Noé et Joseph.
Oh, c'est beau ça, comme prénom. tu sais que Joseph, ça me touche particulièrement, mais Noé aussi, c'est très très beau. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta vie de jeune femme? Il y a une quinzaine d'années, quelle était ta vie?
Alors, je vivais à Lyon, chez ma mère. J'étais étudiante en master professorat des écoles.
Ok.
Et j'avais une vie étudiante tout à fait classique, à sortir tous les week-ends, à profiter, à dépenser l'argent du Crous. Et voilà, et puis j'avais un amoureux, et voilà, tout allait bien.
Et il était à Lyon aussi, lui?
Non, lui, il habite, à ce moment-là, il habite à Nice, enfin à Antibes, parce qu'il fait ses études à Schema, donc et à Sophia Antipolis.
Et un jour, tu es en vacances à Antibes, chez ton amoureux.
Ouais.
Et c'est à quelle occasion? C'est les vacances d'été, c'est...
Non, c'est juste après les vacances de Noël. Donc, c'est pas des vacances officielles, c'est moi qui suis partie en vacances. Voilà, c'est juste après le jour de l'an. Donc, c'est vraiment tout début du mois de janvier.
Et c'est sympa, il fait doux. Enfin, c'est un endroit sympa pour
être. C'est très agréable. On est vraiment face à la mer, donc c'est et puis à Antibes en hiver, c'est pas vraiment l'hiver, donc on sort, on est en gilet, on profite. Et puis c'est vrai que donc. Édouard a une vie étudiante d'école de commerce, donc c'est très agréable. Il y a des soirées tout le temps. On a toujours des choses à faire. On se promène en scooter. C'est un peu la Dolce Vita, mais côté France.
Et puis tu ressens un coup de fil.
Oui, je ressens un coup de fil de ma grand-mère, donc qui cherche à me joindre plusieurs fois. Et donc moi, je suis toute seule chez mon amoureux. Et j'avoue, sur le moment, j'ai pas trop envie de lui répondre parce que je sais que ma mamie parle beaucoup. Donc, je voulais prendre le temps de la rappeler. Et en fait, elle insiste. Donc, je décroche. Et j'entends sa voix. Et là, je me dis que quelque chose ne va pas parce qu'elle sanglote. Elle a peine à articuler. Et elle me dit, Mia, c'est ton père, il a fait une connerie. Et donc là, j'ai un moment de pause et je lui dis, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je sais pas, j'ai eu Cathy, donc qui est la femme de mon père.
Donc tes parents sont séparés?
Oui, mes parents sont séparés, pardon.
D'accord. Depuis longtemps?
Depuis très longtemps, parce que moi, j'ai 24 ans et ils se sont séparés quand j'avais 3 ans. Donc,
d'accord, donc voilà, tu n'as plus un couple depuis longtemps, quoi.
Voilà, okay. C'est ça. Et elle me dit, je sais pas, il a fait une connerie.
Mais dans ces cas-là, tu penses quoi? Il a fait un cambriolage? Il a fait...
Non, je sais même pas ce à quoi je pense, mais je comprends tout de suite, en fait, qu'en fait, il est mort. Mais,
oui.
Mais je sais pas pourquoi je pense à ça tout de suite, mais je sais pas dans quelles circonstances, mais c'est la première chose à laquelle je pense, puisque tout de suite, je m'effondre, en fait. Mais je pense que le fait d'entendre aussi ma grand-mère en pleurs, ça m'a fait comprendre que c'était pas justement un cambriolage, ouais. Et que c'était plus grave que ça. Enfin, à notre sens, on va dire. Et donc elle me dit, il faut que tu rentres tout de suite.
Elle sait que t'es à Antibes.
Elle sait que je suis à Antibes. Parce qu'en fait, oui, j'ai dit que je vivais chez ma mère. En fait, non, je vivais chez ma grand-mère à ce moment-là.
D'accord.
Et du coup, donc, elle me dit, il faut que tu rentres tout de suite. Et je dis, ben, d'accord. Et en fait, j'essaye de, donc, à ce moment-là, je comprends et je m'effondre vraiment en sanglots. Je me souviens, je suis dans les toilettes du tout petit studio et je pleure. Et en fait, je veux pas qu'on m'entende parce que je sais qu'il y a les colocs de mon copain à côté. Mais c'est vraiment des sanglots. Je pensais pas qu'on pouvait pleurer comme ça.
Mais en silence.
Non, je fais. En fait, je fais beaucoup de bruit. C'est vraiment des sanglots bruyants. Et je pensais pas que voilà, être capable de faire autant de bruit.
C'est marrant parce que il y a des choses parfois quand on vit un drame, on fait un arrêt sur image, on se voit faire quelque chose. Et c'est marrant que tu viens d'apprendre une nouvelle fracassante. Et ta mémoire retient et tu te dis, tiens, je pensais pas qu'on pouvait pleurer aussi fort et aussi intensément. C'est drôle quand même parfois certaines choses sur lesquelles le cerveau se bloque.
Surtout que, alors, je suis peut-être un peu bizarre, mais ça m'était déjà arrivé d'imaginer une situation où je perds un de mes parents. Et pour moi, je m'étais toujours dit que à ce moment-là, soit je j'aurais pas de réaction, ou alors je pleurerais en silence. Et pas du tout.
Voilà. Comme quoi, ça sert à rien d'avoir peur à l'avance, on
non,
sait jamais de quoi.
Exactement, ce qui va se passer. Et donc, du coup, donc je raccroche, je pleure beaucoup et je me dis, il faut que j'appelle Edouard. Il faut que je prévienne ma mère qui est en Israël pour qu'elle prévienne mon frère qui vit là-bas. Et donc, je regarde mon téléphone et je réalise que je suis donc à une époque où on a encore un peu de cette histoire de forfait et de crédit. Et j'ai plus du tout de forfait, en fait. Donc, je n'ai plus aucun moyen de joindre qui que ce soit. Donc, je suis toute seule. Mon copain est donc parti voir des amis. Il doit revenir me chercher parce qu'on a une soirée le soir. Et je sais pas quoi faire, en fait. Je suis complètement démunie. Donc, j'utilise Internet et j'envoie un message donc à une amie d'enfance qui vit en Israël en lui disant, je t'en supplie, appelle ma mère et dis-lui de me rappeler tout de suite, c'est très urgent.
Sur quoi, sur Facebook?
Ouais, sur Facebook. et elle comprend pas et du coup elle finit par prévenir ma mère qui m'appelle, donc je lui explique. Et donc j'attends, en fait. J'attends là et je me souviens, je suis sur le canapé bleu et je sais pas quoi faire, je suis complètement, c'est ça, démunie et mon copain finit par, et c'est pareil, en fait j'ai plus d'argent pour prendre un billet de train non plus, enfin voilà, c'est vraiment la dèche. et donc mon copain finit par rentrer et il me dit alors on y va, et en fait il voit ma tête et il comprend qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé, et je lui explique et je lui dis il faut que je rentre là, je sais pas ce qui s'est passé. Et il faut que je rentre. Donc du coup, il me prend le billet de train et pour le lendemain, en fait, le lendemain matin, parce que le soir il y en avait plus. Et donc je rentre à Lyon le lendemain matin. Je suis dans un Ouigo avec encore des sièges bleus. Le bleu, c'est un peu la couleur très moche. Et je pleure. Cette fois en silence. Je fais des allers-retours dans les toilettes parce que c'est pareil, j'ai pas envie qu'on me voie pleurer. Mais il y a des moments où juste les larmes sortent, je pense que j'ai une tête de cadavre. et donc j'arrive à la gare de Lyon-Pardieu, et donc il y a ma grand-mère qui est venue me chercher avec mon oncle et ma tante qui sont le frère et la sœur de mon père. Et en fait je tombe dans les bras de mon oncle que je n'ai pas vu depuis des années, mais en fait il a la même voix que mon père, donc du coup c'est très perturbant et c'est un peu la figure qui me rattache à lui sur le moment. Donc voilà, on se prend dans les bras et donc on rentre chez ma grand-mère, et c'est là que j'essaye de comprendre ce qui vient de se passer.
Parce que jusque là, tu sais pas.
Je sais pas ce qui s'est passé. Et donc là, ma grand-mère dit, mais en fait, il s'est suicidé. Et donc moi je dis, mais comment ça, il s'est suicidé? Et elle me dit, bah oui, il s'est suicidé hier matin. Et son corps a été retrouvé par un passant ou quelqu'un qui allait travailler, je sais pas, parce que mon père habitait en Ardèche, dans un tout petit village, et donc du coup c'est pas des endroits hyper fréquentés. Et donc c'est quelqu'un qui a retrouvé le corps. Et donc voilà, et du coup là je me dis mais enfin qu'est-ce qu'on c'est quoi la suite en fait, ouais. Parce que moi j'ai jamais perdu quelqu'un, j'ai perdu mes arrière-grands-parents mais quand j'étais toute petite, donc je sais pas comment ça se passe. Et donc on décide de partir en Ardèche voir ma belle-mère et mes frères. Oui, les frères de donc mon père et ma belle-mère ont eu 2 enfants.
D'accord.
Voilà. Et qui à cette époque ils ont donc 16 et 18 ans. Donc on décide de partir pour voilà aller voir tout le monde. Donc on part le jour même de mon arrivée. Et je me souviens du. En fait, je me souviens pas du trajet, c'est très flou. et en fait, on arrive là-bas dans cette petite maison, dans ce tout petit village. Et j'ai pas l'impression sur le moment qu'on est les bienvenus.
Ouais.
Enfin, même pas du tout.
T'avais des relations comment avec ta belle-mère?
Compliquées, très complexes. C'était vraiment des relations un peu. Je pense que je lui faisais trop penser à ma mère. Et vu que voilà, mon père et ma mère se sont connus très jeunes, ils ont eu une histoire d'amour assez courte mais très intense. Je pense que de me voir, ça lui rappelait tout ça. Et elle avait des relations très particulières aussi avec ma grand-mère. Elle lui en a toujours voulu en disant que c'était à cause d'elle en fait si mon père avait fait ça, parce qu'elle avait pas voulu les aider financièrement.
Alors attends, on va prendre les choses dans l'ordre. Parce que quand tu arrives sur place, à quel moment quelqu'un t'explique ce qu'il a fait, comment il s'est tué, où il était, enfin, à quel moment quelqu'un te donne les informations cruciales dont tu as besoin pour comprendre?
Alors en fait, on arrive et peut-être 5 ou 10 minutes après, ma belle-mère qui arrive me dit viens, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et on est dans la cuisine et en fait, elle me dit de but en blanc, bah voilà. Il s'est suicidé, il s'est pendu sous le pont du petit village à côté. Et en fait, elle me dit ça, mais avec avec tellement de colère, ce qui est normal. Mais en fait, je me prends toute sa colère, donc j'ai l'impression que c'est de ma faute. Donc c'est un peu dirigé contre moi, alors que je sais maintenant que non. C'est juste que quand on vit des choses comme ça, je pense que on ne sait pas trop comment gérer ses émotions.
Mais il n'empêche que tu te prends quand même sa gueulante.
Voilà, exactement. Et du coup, je reste sans voix, en fait. Et je lui dis, mais est-ce que tu sais pourquoi? Et elle me dit, voilà, c'était trop dur financièrement. Donc, c'est pour ça, il a laissé un mail où il explique qu'en fait, il a fait ça pour que je puisse toucher l'assurance pour payer la maison. Et il a laissé des lettres, donc où il nous a laissé des lettres. Moi j'ai dit ah d'accord et elle dit oui, il a laissé une lettre pour moi et pour tes frères. Et je dis pour mon frère qui s'appelle Simon qui vit en Israël, et je dis pour Simon et moi. Elle me dit rien. Elle dit mais de toute façon, ça faisait longtemps que vous étiez plus là pour lui quoi.
Il y a vraiment des mots très très mal élevés qui me viennent à l'esprit pour commenter. Je veux pas le faire, mais. Et comment tu réagis à ce moment-là quand elle te dit ça?
Non, je pense que je réagis pas tout de suite. En fait, sur le moment, je me dis qu'elle a raison. Parce qu'effectivement, moi, mon père, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je me souviens, pour le jour de l'an, il m'a écrit un message et je lui ai répondu assez sèchement parce que il prenait jamais de nouvelles et que je cherchais à le joindre, à le voir et il était jamais disponible. Donc je me dis moi ça fait longtemps que je suis plus là et que j'ai fait ma vie et que finalement j'ai pas forcément cherché à voir comment lui il allait. C'est par la suite où la colère va commencer à arriver. Et voilà. Et
donc, tu culpabilises tout de suite.
Ouais. Tout de suite, je me dis, forcément, tout de suite, il y a les « et si » qui arrivent. et donc, voilà.
Pardon, mais tu te dis pas, il y avait des lettres pour nous, elle nous les donne pas?
Si. Il y a encore quelques, peut-être pas quelques mois, mais encore au moins un an ou deux, je me dis, je pensais encore en me disant, il y a une lettre qui va ressurgir, qui va arriver comme ça. En fait, elle s'était perdue. Mais non. Mais oui, non, j'y ai pensé pendant très, très longtemps.
Moi, j'ai pas imaginé une lettre qui pourrait ressurgir, mais une lettre qu'elle aurait planquée.
Alors, non, ça, non, vraiment, juste qu'elle s'était perdue, ou pendant un temps, je me disais qu'elle voulait pas nous la donner tout de suite, qu'elle l'avait pas trouvée. Mais pas qu'elle l'aurait planquée. J'espère pas qu'elle ait fait un truc pareil.
Ça arrivait dans ma famille, c'est pour ça que je pensais à ça.
Ok. Voilà.
Donc elle te dit ça, et puis vous faites quoi? Vous dormez chez eux?
Non. Non, en fait.
Pardon, mais le corps, il est où là? Il est à l'hôpital, il est à la morgue, il y a une veillée?
Non, il n'y a pas de veillée. Je pense que peut-être qu'il est déjà à la morgue, parce que quand il y a un suicide, il y a une enquête qui est effectuée. Donc du coup, de toute façon, mon père était athée, donc
ouais.
Il n'y avait pas d'histoire de temps de mise en terre.
D'accord.
Et donc du coup, ça a pris à peu près, si je me souviens bien, une semaine avant qu'il y ait la crémation.
Oui, c'est très long.
Ouais.
Et tu savais qu'il voulait une crémation?
Alors moi, dans mon souvenir, il voulait être enterré dans un cercueil, tu sais, biodégradable.
D'accord.
et en fait, je crois que c'était trop cher. Et si je me souviens bien, dans le mail, il précise que il veut pas d'enterrement, il veut pas de fleurs et il veut pas de cercueil. Il veut juste que son corps soit brûlé, en fait. Enfin, incinéré.
D'accord. Mais t'as l'impression que c'est pour des raisons économiques?
Non, pas spécialement. Je pense qu'il a jamais vraiment été attaché à,
d'accord,
à tout ce qui est matériel et tout ce qui est son corps, en fait. Donc, pendant un temps, il voulait donner son corps à la science, par exemple. et donc, voilà, du coup, voilà, on rentre le jour même, parce que l'ambiance est vraiment très, très particulière.
Vous vous sentez pas les bienvenus?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Alors, est-ce que sur le moment, tu te dis, tu lui demandes, est-ce que je peux prendre un t-shirt à lui? Est-ce que je peux prendre un...
Non. Non, j'y pense... Si, j'y pense, mais en fait, j'ose pas. Enfin, c'est pour ça que je te disais, j'ai une relation très particulière. Ma belle-mère, Enfin, maintenant, ça va mieux, mais j'ai toujours eu très peur d'elle et en même temps, toujours eu envie qu'elle m'aime très fort.
Ça s'entend, les deux s'entendent totalement. Donc, parce que moi, elle me fait peur, déjà, à distance.
Donc, du coup, j'ai pas osé. J'ai pas osé. C'est pareil, après l'incinération.
Donc, vous repartez à Lyon et vous revenez pour l'incinération?
C'est ça, on revient pour l'incinération. Et là, c'est pareil, c'est vraiment une ambiance. En fait, on sent qu'il y a deux côtés de la famille. Il y a le côté de mon père, sa vie d'avant. Donc, il y a ma grand-mère, mon oncle, ma tante, mon frère et moi. Et de l'autre, il y a mon père et sa vie d'après. Mes frères, ma belle-mère et ses filles. Et il y a je sais pas combien d'amis de mes frères qui sont là aussi.
Et toi, t'as des relations avec tes demi-frères et avec sa nouvelle famille?
Oui. Avec mes demi-frères, on s'entend très bien. Ça se passe très très bien. Avec mes quasi-sœurs. Il y en a une avec qui c'est un peu compliqué, mais parce que on a le même âge et qu'on a eu l'adolescence en même temps, donc forcément, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, on a quand même,
des bonnes relations.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est vraiment cette espèce de séparation qui n'est pas forcément visible, mais qui se sent vraiment. Et je pense que, en fait, donc comme je disais tout à l'heure, mon père a laissé un mail, et dans ce mail que moi j'ai pour le coup j'ai demandé à ma belle-mère de me l'envoyer, il explique dedans, donc il a fait ça pour qu'elle puisse payer la maison. Il dit à un de mes frères qu'il faut qu'il termine ses études parce qu'il est en hôtellerie restauration, à l'autre pareil qu'il faut qu'il termine, il fait un CAP pour être chauffeur routier, donc il doit terminer aussi. Et il dit tu embrasseras très fort donc Ludivine qui est une de mes quasi-sœurs, tu embrasseras très fort je sais plus qui, fais attention aux chiens et aux perroquets.
Et rien sur toi.
Et rien sur moi, rien sur mon frère. En fait, c'est comme si on n'avait jamais existé, quoi. Et donc voilà. Et donc du coup, je pense que la lecture de ce mail a aussi un peu repensé l'équilibre entre guillemets. Et c'est pour ça que il y avait cette ouais, cette séparation entre.
Ta mère est venue?
Non, 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 non. Je crois que ça finit sans pugilat. Elle finit. Je pense qu'elle, ma mère et ma belle-mère se détestent. C'est donc non, ma mère n'est pas venue. Et voilà, donc du coup, il y a eu l'incinération avec choix de musique effectué par ma belle-mère, mais qui voilà, qui représentait tout à fait mon père.
Donc ouais, donc pas de souci.
Non, pas de souci là-dessus. Et puis une fois terminé, bah, chacun est reparti. Il n'y a pas eu de moment, alors pas l'américaine, on se retrouve et on
mais de recueillement, fou, hein,
mais juste de recueillement. Non, on est tous repartis chacun de notre côté.
Ton copain à ce moment-là, il est comment? Il est présent? Il est
Là. Il est venu avec moi. Je lui ai demandé de venir. Après coup, je me dis que c'était peut-être pas une bonne idée parce que c'est le seul moment où il a rencontré mon père finalement. Mais il est venu. Il est venu. Il est venu pour moi. Donc, il connaissait aussi bien ma grand-mère. Donc, je pense que pour elle, ça lui a fait du bien aussi. Il est venu. Il n'est pas venu voir le corps parce que quand même. mais ouais, il était là.
T'es allé le voir toi le corps?
Ouais.
T'as pas voulu t'épargner cette vision?
Non, je pense que j'en avais besoin pour me dire que c'était vraiment arrivé. Et puis je pense que même si c'était mon père, il y a peut-être un peu de curiosité morbide.
Très clairement. Tu crois?
Ouais, je pense peut-être de voir, enfin juste voilà, de réaliser et de voir aussi. Et je me souviens, je rentre dans la pièce dédiée. Donc c'est très sombre, il fait froid. Enfin bon, c'est normal en même temps pour conserver. Et donc je m'approche et je vois qu'il a, enfin, voilà, il a un pull col roulé. Et je me dis bah je vais l'embrasser en fait parce que pour lui dire au revoir et puis je me dis aussi c'est un peu comme ça qu'on fait normalement et en fait je pose mes lèvres sur son front et c'est là où je réalise qu'il est vraiment parti parce que c'est une enveloppe, il y a plus rien dedans, on sent vraiment que la vie est partie et je ça m'a permis de réaliser mais ça m'a beaucoup traumatisé aussi, j'aurais peut-être pas dû le faire et après je suis sortie et voilà.
Tu as quel âge à ce moment-là?
J'ai 24 ans.
Oui, donc t'es plus un bébé, mais t'es pas une grande personne encore, quoi.
Non, pas encore. Pas tout à fait.
Et donc, ta vie doit reprendre, tu dois retourner à la fac.
C'est ça.
Et t'arrives à le faire?
Non. Non, j'écris assez rapidement, donc j'avais un très bon groupe de copines. Je leur explique très rapidement la situation, alors donc je vais pas revenir tout de suite. J'écris pareil à mes professeurs. Et en fait, je pars pendant une semaine chez ma meilleure amie qui vit à Toulouse, qui me dit, bah viens à la maison et comme ça, on prend du temps ensemble et pour te sortir en fait de cette ambiance complètement morbide. Donc je passe une semaine à Toulouse qui me fait beaucoup de bien et du coup pendant cette semaine je me souviens je fais un rêve où il y a mon père qui vient me voir et qui me dit je peux pas te parler, je suis très pressée mais sache que je t'aime et tout va bien et voilà. Bon, depuis j'ai pas vraiment eu d'autres signes probants mais je me suis beaucoup raccrochée à ça en me disant que bah peut-être que c'était vrai, enfin peut-être que c'est dans mon imaginaire complet, mais et que c'est mon inconscient qui a voulu me rassurer et me relever. Mais je me dis aussi que ça m'a fait du bien. Voilà. Que peut-être c'était vraiment lui et que ça m'a permis d'avancer un tout petit peu. Et donc voilà, du coup, je finis par retourner à la fac, reprendre ma vie. Donc je vis toujours chez ma grand-mère. Donc on essaye de se soutenir l'une comme l'autre comme on peut. On regarde le Bachelor tous les soirs. Parce que ça nous fait du bien et ça nous fait rire.
Ça va être mignon de regarder ça avec sa grand-mère.
Oui, ouais, franchement, c'est très, très, très sympa. Et du coup, voilà, le quotidien qui reprend. Et à la fin de cette année-là, donc c'était en 2000, 2013. Donc il y a mon amoureux qui part, qui doit partir donc tout début, ouais c'est ça, fin 2013, début 2014. Donc ça fait un an du coup que mon père est mort. Il doit partir pendant 6 mois faire un échange en Chine. Et donc là, j'avais réussi à tenir jusque là, mais là c'est très très dur pour moi. Je pars de chez ma grand-mère, je retourne chez ma mère, qui entre-temps est partie vivre à Nice. Donc en fait, on a juste l'appartement avec mon frère Simon. Et donc je reste là-bas et je suis vraiment très très mal. Je vais plus du tout en cours. J'arrête totalement. Je passe des heures dans ma chambre. Voilà, des heures à écrire à Edouard qui de toute façon est sur un autre fuseau horaire, donc voit les messages beaucoup plus tard. Enfin, c'est vraiment une période assez particulière. Je mange pratiquement plus, ou alors je me fais des fringales et je vais vomir. Enfin bref, un grand classique. En fait, j'essaye de faire sortir la douleur comme je peux, donc c'est...
Donc tu te fais vomir?
Ouais. Je vais pas du tout manger, ou alors voilà, je vais beaucoup beaucoup manger, et en fait de me faire vomir, j'ai l'impression que ça me soulage.
Ça te libère.
Ouais, exactement.
Tu penses que tu fais une dépression à ce moment-là?
Je pense pas à ça, non. Je me dis que c'est juste en fait j'y pense pas, je suis tellement mal que je me laisse pas aller, mais
tu tombes un peu là de ce que tu décris.
Oui, c'est ça. Sans me dire que je fais une dépression, je pose pas les mots là-dessus, en fait. Je me laisse juste, je laisse la douleur prendre le pas complètement. Et donc, moi, mon seul but à ce moment-là, c'est que je pars rejoindre donc Edouard à Shanghai, et qu'on va faire un voyage d'un mois et demi autour un peu de la Chine et du Vietnam. Et voilà, c'est mon point. je me dis, je travaille pour ça. Ouais. C'est pour payer mes billets et profiter pendant un mois et demi. Et donc, je pars.
Alors, attends, avant de partir,
pardon.
Tu vas voir quelqu'un pour parler de ça?
Non, pas du tout. Je vais voir personne parce que je me dis que ça sert à rien. Et il faut savoir que je suis très pétrie des idées, justement, de mon père et de ma belle-mère. Et pour eux, on va pas avoir des gens pour parler. En fait, on se soigne tout seul. Et voilà, la vie
avec
est dure.
Et
voilà. La vie est dure et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc non, je veux voir personne. Et donc je pars et j'arrive donc à Shanghai et je me dis, et moi je rêvais d'aller en Chine depuis toute petite. Et donc c'est un rêve qui se réalise d'aller dans ce pays, moi je voulais parler chinois, visiter la muraille de Chine, la cité impériale. Et en fait j'arrive et peut-être 2-3 jours après mon arrivée, je commence à faire des crises de panique. Mais vraiment, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'est vraiment très, très violent. Où, en fait, mon corps se tétanise complètement. Et je me mets à trembler. J'arrive plus à respirer. Et ça prend 10, 15, 20 minutes avant que je réussisse, en fait, à me calmer. Et en fait, on voyage et je suis dans un état complètement second. Je vois les paysages qui défilent. Je suis là sans être là. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être complètement dissociée. Et d'ailleurs, je me souviens à un moment, je suis sur une plage au Vietnam et c'est l'endroit paradisiaque. Et je suis face à la mer et je me dis, mais en fait, c'est trop d'informations, c'est trop de choses qui arrivent à mon cerveau. J'arrive pas à réaliser ce qui se passe, et je me souviens, je mets mes mains devant moi et je regarde les mains et je me dis, mais c'est pas mes mains, en fait, c'est vraiment c'est les mains de c'est pas à moi. donc du coup je suis là, et
c'est à dire que tu crois que t'as un...
Ben, j'ai l'impression d'avoir un épisode de dépersonnalisation, genre de devenir folle, en fait.
Ouais,
c'est juste ça.
Et Edouard, il gère ça comment? Il voit ça?
Il voit pas. Il voit pas parce que j'arrive très bien, en revanche, à donner le change. C'est-à-dire que quand c'est beau, je suis là, waouh, c'est beau. Quand on voyage, je fais tout, en fait, pour qu'il ne voit rien. Et je m'évade, moi, dans ma tête, en étant tout le temps sur mon téléphone, les moments où je suis toute seule. C'est-à-dire que je me souviens, j'ai téléchargé le Game of Thrones, je me souviens plus du titre en français, alors que je l'ai lu en français. Et j'ai lu tous les livres pendant le voyage le soir, parce que ça me permettait en fait de pas réfléchir. Je pensais juste à l'histoire.
Moi, c'était Twitter.
Ah bah voilà.
Je lisais la vie des autres et les
c'est très bien. Voilà,
les embrouilles et je me noyais là-dedans.
Exactement. Ouais. Et du coup et donc voilà. Et en fait, on rentre en France. Et donc je m'étais dit peut-être que, parce que je sais qu'il y a par exemple quand certaines personnes d'origine chinoise ou japonaise arrivent en France, elles ont toujours eu cette espèce de fantasme sur la France et elles font des moments de dépersonnalisation. Enfin, c'est le syndrome de Stendhal, ça s'appelle.
Ouais, ouais.
Parce qu'elles trouvent ça tout vraiment trop beau et moi je me dis bah peut-être que c'est ça que j'ai vécu.
Trop beau ou trop loin de ce qu'elles imaginaient.
Aussi ouais. Et je me dis c'est peut-être ça que j'ai vécu.
Ouais.
Et je me dis une fois rentrée en France, ça va aller mieux. Et pas du tout. C'est encore pire, en fait. Du coup, je rentre chez ma grand-mère. Et je me souviens, je sais pas ce que fait ma grand-mère. Je pense que elle est là, mais je me souviens même plus si elle est là ou si elle est pas là. Et moi, je passe, mais peut-être 3 semaines, 1 mois, dans le noir. Je ferme les volets et je regarde la télé. Je m'assomme avec la télé. Je regarde tout ce qui passe. Et je regarde pas les infos. Je regarde que des trucs, voilà. Les trucs les plus nuls possibles, je vais les regarder.
Oui, mais les trucs nuls, en fait, ils font pas de peine.
Oui, et c'est ça, exactement. Et toi, tu poses le cerveau et c'est très bien. Et voilà. Et en fait, on a pris la décision, donc, avec Edouard, de s'installer à Paris. Et donc, on rentre en juillet et en août, on va pour chercher un appartement. On trouve un appartement très mignon dans le 18e. Voilà, le premier cocon. Et moi, je me dis, mais... je vais pas pouvoir rester là, en fait. Je vais pas pouvoir rester avec lui. Je peux pas, en fait. Je commence à paniquer de cette vie qui s'installe et qui commence à être une routine un peu classique, on va dire. Voilà, l'appartement avec le copain. Et puis après, ça va être les fiançailles, le mariage, le bébé. Et moi, je panique complètement. Et donc là, c'est pareil. Je vais être dans le même état qu'en Chine, où je vais faire beaucoup de crises de panique. En fait, cette fois, je les sens arriver. Donc, dès que j'en sens une arriver, je m'éloigne. Je veux pas que Edouard soit là. En fait, je veux la gérer toute seule. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir un voile, en fait, dans le visage tout le temps. Je vais au travail, je travaille dans une boulangerie. Je vraiment, pardon pour les clients, parce que je pense que j'ai dû avoir des moments vraiment très désagréables. Et voilà, et ma vie passe comme ça, je la regarde sans faire vraiment attention. Et puis cette année se passe, et l'année suivante, Edouard doit faire sa dernière année dans son école. Donc je prends un autre appartement, un petit studio, toute seule. Et là, ça va être le pire du pire. Ou dès que je vais pas au travail, en fait le soir je rentre chez moi et je prends des somnifères. Le week-end c'est pareil, quand Edouard ne vient pas, c'est pour faire passer le temps, pour que ça passe plus vite et pour pas penser encore une fois. Je continue les crises de panique, sauf que maintenant ça se déclenche vraiment pour tout et pour rien. Je me souviens du mariage du frère d'Edouard où on me demande juste si ça va à l'entrée de l'église et j'explose en sanglots. Et c'est vraiment, rien me fait partir. Et donc, à la fin de cette année-là...
Tu continues à avoir des troubles alimentaires ?
Oui. Oui, alors ça va.
Festival, d'accord.
C'est ça, exactement. Et donc, à la fin de cette année-là, Edouard revient à Paris. On s'installe à nouveau ensemble. Et donc c'est moi qui commence à dire ça fait longtemps qu'on est ensemble, il faudrait voilà, j'ai envie qu'on se marie, j'ai envie qu'on fonde une famille. Pour moi, c'était côté parents a volé en éclats, donc je veux construire la mienne. Et il me dit mais Mia, comment tu veux qu'on se marie et qu'on ait des enfants vu ton état en fait. Donc là en fait ce qu'il faut que tu fasses c'est que toi tu te soignes et tu te reconstruises et après peut-être que
ouais.
Et sur le moment je veux pas l'entendre, je suis là mais ça va très bien, c'est bon, c'était il y a 3-4 ans, je sais même plus. Et il me dit non mais là c'est non en fait.
C'est vrai que tu crois que tu lui as caché des trucs, mais en fait il a
oui,
très
oui,
bien
oui,
vu
non,
ton
oui,
état
complètement. C'est clair. Et donc je finis par me reprendre en main en fait, parce que je me dis je veux tellement ça que ok, bah je vais le faire. Alors si c'est que ça qu'il faut faire. Ouais. Et donc je vais trouver une psychologue sur Paris qui va me voir pendant un an toutes les semaines et qui va me dire que tout simplement en fait j'ai subi un choc, enfin je suis en choc post-traumatique. Du fait que bah, la nouvelle a été trop violente, apprise d'une façon quand même particulière, et voilà, du coup qu'il faut bah, qu'il faut que j'apprenne à vivre avec, mais qu'il faut que je travaille et que et pas que je fasse le deuil, mais que voilà que j'en parle pour pouvoir avancer. Et donc pendant un an, on va parler de ça et puis de plein d'autres choses. et ça va beaucoup beaucoup m'aider.
Ouais.
Et donc voilà, du coup, je vais commencer à aller de mieux en mieux. Je vais faire beaucoup moins de crises de panique.
Ouais.
Je vais recommencer à bien manger, un peu trop. et en fait, là, après, à partir de ce moment-là, va se dérouler la vie qui est quand même plus simple,
ouais.
où je me sens de mieux en mieux dans mon corps, où je profite de la vie parisienne, j'ai un travail qui me plaît pas forcément, mais voilà, j'ai des super collègues, on est amis en dehors du travail, enfin voilà, c'est la vie est sympa.
C'est-à-dire que la vie redevient un peu sereine et c'est comme si le voile partait, quoi.
C'est ça, exactement. Et de toute façon, moi, j'avais fait un pacte avec un Dieu. Pacte.
Toi, t'es religieuse?
Moi, je suis de confession juive.
D'accord. Et t'es croyante?
Croyante.
Ok.
Pratiquante, un peu. Mais et du coup, j'ai fait un pacte en disant, là, tu me fous la paix pendant 10 ans.
Mais c'est horrible parce que ça fait une épée de Damoclès.
Oui, bah, parce que là, du coup, ça fait 11 ou 12 ans. Donc
écoute, t'as très bonne mine, ça a l'air d'aller.
Et
Pardon, mais tu fais vraiment un pacte dans ta tête, tu
ouais,
te dis
dans ma tête où alors il faut savoir que avant ça, moi j'étais pratiquante.
OK.
Voilà, j'étais vraiment très pratiquante. Ensuite, j'ai rencontré Edouard qui n'est pas juif. Donc j'ai un peu dévié et même je me souviens au début, j'étais là, je peux pas me mettre avec lui parce qu'il est pas juif. Et bon, on s'est quand même mis ensemble parce que l'amour est plus fort que tout. Et en fait, à partir du moment, alors je mangeais cachère, je mettais encore voilà des jupes assez longues, enfin voilà, j'ai gardé tout ça quand même.
Je viens d'apprendre l'expression de snoot.
Oui,
c'est ça.
Pardon, ouais,
c'est ça. Pas du tout, j'adore. Alors pour ça, ça veut dire c'est les femmes juives qui respectent une certaine façon de s'habiller pudique, quoi.
Ouais, exactement. Et du coup.
Et là, t'as arrêté quand t'as commencé à sortir avec lui?
Non, j'ai continué.
Ah, d'accord.
Ouais, j'ai quand même continué. Alors, peut-être pas les vêtements, mais en tout cas, voilà, je continuais à manger le plus cachère possible. Je faisais Shabbat, enfin, les fêtes. Et puis, quand mon père est mort, j'ai dit non. Non. Mmh. En fait, c'est bon. Parce que, enfin, pourquoi, en fait?
Si Dieu existe et qu'il a laissé faire ça, c'est
voilà,
que...
c'est
qu'il mérite pas ses efforts.
Exactement. Et puis, voilà, après, j'ai, moi, personnellement, d'autres choses qui sont passées avant dans ma vie qui étaient vraiment pas cool et je me dis, mais ça y est, enfin, il y a un moment, on peut pas, pourquoi on s'acharne? C'est toujours les mêmes personnes, en fait, on a l'impression. Et donc, j'ai dit, bah, stop, c'est bon, moi, j'arrête tout, je m'habille comme je veux, je mange ce que je veux, ça y est. Et je lui ai dit, on reverra dans 10 ans, mais là, tu me fous la paix. Et donc voilà, du coup, donc voilà, psychothérapie se passe, enfin cette thérapie se passe.
Ouais.
Donc Edouard finit par me demander en mariage.
Ouais.
On se marie et c'est génial. Et voilà, moi, il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à mon père. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je sois en colère après lui, en me disant mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'on peut me dire que c'est l'argent, mais moi, j'y crois moyennement, puisque j'ai appris quelques semaines après son décès qu'il avait retrouvé du travail et qu'il allait signer un nouveau CDI. Enfin, voilà. Donc,
Et tu sais, il y a toujours une partie de rationnel, et puis il y a des choses, parfois, une maladie mentale ne se voit pas et ça, se clame pas.
C'est ça. Je pense qu'il a toujours été. Ouais, il a peut-être toujours été dépressif, ou voilà. Et bah, comme on disait, c'est que c'est une personne qui voulait pas se soigner dans tous les cas. Il serait jamais allé voir quelqu'un pour parler de quoi que ce soit. Et c'est ma mère qui m'a raconté quelques années après que quand ils étaient ensemble et qu'ils avaient 16, entre 16 et 18 ans, il lui avait dit mais de toute façon moi j'attendrai pas les 50 ans. Et il s'est suicidé à 42 ans. Donc voilà, il y avait quand même un terrain. Et voilà. Et donc du coup, moi, je vis ma vie, mais je suis quand même très très en colère après lui. Je me pose des questions. Je l'insulte hein, dans ma tête très clairement. J'arrive pas à passer outre ce qu'il a fait. J'arrive pas à me dire mais pourquoi est-ce qu'il nous a pas laissé un mot, enfin juste une attention, une pensée. Je comprends pas et je comprendrai jamais de toute façon. Et du coup, donc cette colère sourde qui continue, même si moi ça va mieux, j'arrive pas à passer à autre chose par rapport à ça. Et puis du coup, je tombe enceinte de Noé, qui est mon premier petit garçon. Et là, en fait, je deviens maman. c'est trop beau. Et d'un côté, je me dis, mais regarde ce que t'as raté. Tu seras jamais grand-père, en fait.
Ouais.
Et tu rencontreras jamais ton petit-fils. Et moi, Noé, je vais commencer à lui parler de mon père il y a un an.
Il a quel âge?
Il a 4 ans.
Ok.
Et j'ai commencé à lui parler il y a un an. Avant, je parlais même pas de lui. En fait, c'est Edouard qui parlait de temps en temps de lui. Moi, je voulais pas, en fait. Enfin, je dis même pas que je voulais pas, c'est que j'y pensais pas. Je me disais, bah, de toute façon, toi, t'as fait ça. Pourquoi t'aurais une place, finalement? Et en fait, donc j'ai toujours cette colère et je vais découvrir à la naissance de Noé, je vais découvrir un compte sur Instagram d'une femme qui propose des ateliers d'écriture. Et donc je vais suivre ces ateliers. Je vais écrire beaucoup sur mon père, beaucoup sur d'autres sujets, mais beaucoup sur mon père. Je vais écrire toute la colère que j'ai. Mais vraiment, je crache les mots.
C'est un exutoire.
Ouais, exactement. Je crache les mots et en fait, ça me fait chaque fois plus de bien de pouvoir écrire tout ça. C'est des choses que j'ai jamais lues à personne, à part aux femmes qui étaient avec moi dans ces ateliers. Et ça me fait énormément de bien. L'année dernière, c'était les 11 ans de sa mort, ou 12 ans, je sais plus. Un mois avant, je me suis rendu compte que j'étais enceinte du coup de mon deuxième fils. Mon père s'est suicidé un 12 janvier et chaque 12 janvier, je pose ma journée. Et avant, c'était pour, je sais pas, peut-être me recueillir et puis voilà, et laisser libre cours justement à ma colère. Et l'année dernière, j'ai dit, je pose ma journée, mais en fait, stop. Donc, je me souviens, on est parti se promener avec Edouard, donc on habite dans le sud, et on s'est promené dans la ville. On allait manger au restaurant, j'ai bu un verre de vin. et je me suis dit, j'arrête d'être en colère. J'ai plus de colère. Je pardonnerai pas. Je lui pardonnerai jamais. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut pardonner qu'on est obligé de le faire. Moi, je le ferai pas et j'y arriverai pas. Mais par contre, je veux plus être en colère après lui. Et je veux juste profiter. Voilà, exactement. Et c'est du coup à partir de ce moment-là aussi que j'ai commencé à parler de papy Laurent à Noé. Et voilà, il sait qu'il est mort, il sait pas comment, ça je lui ai dit que c'est trop triste et qu'il le saura plus tard. Mais voilà, du coup mon père il a un peu regagné sa place. même s'il est pas présent, mais voilà, je refais une petite place petit à petit dans mes pensées sans être en colère, sans avoir de rancœur. Il sait s'il est quelque part, il sait que qu'il sera jamais pardonné, mais moi, comme tu dis, voilà, je me laisse le bonheur de pouvoir vivre sans avoir cette espèce de boulet de tristesse et qui traîne avec moi.
De ce que tu décris, les deux choses qui ont beaucoup changé les choses, c'est quand t'es allé voir quelqu'un pour te faire accompagner,
ouais.
et quand t'as fait des enfants avec un homme que t'aimes et qui t'aime, Et que ça veut dire que toi, t'as pas reproduit les choses et que t'as mis fin. Pardon, je suis pas psy, mais je te dis comme les choses comme que t'as mis fin au cycle, quoi. Enfin, ouais. que t'as choisi la vie.
C'est ça, exactement. Et c'est oui, c'est exactement ça. J'y pense. C'est vrai que c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que c'était aussi un besoin. C'était d'avoir des enfants, c'était aussi d'avoir ma famille. C'était un besoin aussi de me réparer, de réparer, comme tu dis, enfin ce que j'ai pas eu étant plus petite. Et je sais que bah forcément c'est une famille, il y a des hauts, il y a des bas, mais on est heureux, on est bien tous les quatre et c'est facile et c'est simple.